France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Retrouvons la voix sensible de la pianiste Brigitte Ingerer dans la deuxième partie de l'entretien qu'elle avait accordé à Gaël Le Gallic en septembre 2003. Brigitte Ingerer confie son goût pour le partage de la musique, que ce soit avec le public ou avec les interprètes, son intérêt pour l'enseignement et conclut cette émission par une déclaration d'amour à son piano qu'elle considère comme un enfant ou un ami.
Alors, Brigitte Ingerer, vous n'avez pas une passion dévorante pour les enregistrements en studio, trop froid, dites-vous, trop impersonnel. En revanche, lorsque vous acceptez de jouer le jeu, là encore, c'est le cœur qui vous donne le feu vert et vous choisissez alors avec beaucoup d'attention les œuvres que vous allez graver.
Oui, j'avais très envie de faire les Nocturnes de Chopin. Ça, c'était une envie aussi parce que je sais que je ne vais pas donner un concert en jouant tous les Nocturnes de Chopin. Je trouverais ça un peu monotone dans une soirée de ne faire que ça. J'en joue 2, 3, 4, comme ça, par-ci, par-là. Et donc, c'était important, ça, l'idée de les jouer. Et vraiment, je les adore tous. Quand j'ai fait aussi les œuvres à deux pianos de Rachmaninoff avec Meisenberg, ça, c'était aussi... On ne va pas donner un concert avec toutes les œuvres de Rachmaninoff en une soirée. Donc, c'était agréable de les enregistrer.
Comment se sont faites et comment se font les rencontres de vos partenaires en musique de chambre? Là encore, c'est une alchimie tout à fait particulière. Vous choisissez scrupuleusement vos partenaires ou est-ce que vous savez à un moment donné que ce sont des gens de votre famille musicale avec lesquels vous avez envie d'approfondir des œuvres, d'aller encore plus loin, de chercher ensemble?
Il y a un petit peu de tout. Parfois, c'est le hasard. Souvent, ce sont les folles journées, par exemple, maintenant, au René Martin, qui, lui, dit « Tiens, j'aimerais bien que tu joues avec telle personne. » Alors, la plupart du temps, ça marche bien, parce qu'il a une très bonne vision et sensation, comme ça, des artistes. Puis, parfois, ça débouche pas sur une autre envie de continuer. Laurent Sekilbé, ça faisait par exemple plusieurs années que je rêvais de travailler avec elle et René Martin m'avait parlé d'elle en me disant je suis sûr que vous vous entendriez très bien toutes les deux, tout ça. Et puis quand le festival d'Aix-en-Provence, Stéphane Lister m'a dit voilà, je te propose une soirée au festival d'Aix-en-Provence, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai tout de suite dit voilà, je voudrais faire quelque chose avec Laurent Sekilbé parce que c'était un rêve depuis longtemps, qui existait depuis longtemps. Au Folle Journée, j'ai rencontré Boris Berezovsky, avec lequel depuis 3 ans on joue régulièrement, et ça c'est un grand grand bonheur parce que c'est un immense pianiste, immense artiste. Olivier Charlier, ça fait maintenant une quinzaine d'années que nous jouons ensemble. On a un vrai duo, une véritable amitié, une vraie envie de découvrir ensemble des œuvres, des compositeurs, des... On n'est jamais lassé, je crois, l'un et l'autre de ce travail commun. On joue maintenant avec Olivier depuis quelques années, et moi aussi seul avec Henri de Marquette, qui est un jeune violoncelliste de grand talent, avec lequel, voilà, je viens d'enregistrer l'œuvre violoncelle et piano de Chopin. Ça aussi, c'était une vraie envie de faire ses œuvres en général et avec lui en particulier. Voilà.
Quel travail faites-vous au préalable? Vous parlez beaucoup. Chacun apporte sa vision de l'œuvre. Vous avez travaillé chacun de votre côté et après vous mettez les choses en commun.
Il faut beaucoup jouer. Le fait de... Si on commence à trop parler, ça veut dire qu'on ne se comprend pas et qu'on doit mettre des mots sur les choses. Enfin, on se parle bien sûr aussi. Hein. Mais c'est d'abord la musique et ensuite... Éventuellement, on peut discuter un petit peu, mais il faut que ça parte de la musique et que ça aboutisse à la musique. Et le fait de jouer aussi en concert, on a joué pas mal de fois cet été ensemble. On a quand même pas mal joué ces œuvres de Chopin ensemble depuis 2 ans, 3 ans. Je les ai jouées aussi avec d'autres violoncellistes, et ensuite je suis revenu les jouer avec Henri. Donc tout ça est c'est comme des couches successives comme ça de peinture qui font après peut-être une couleur définitive. Définitive pour le moment, mais peut-être que dans 3 ans, on jouera cette sonate d'une manière tout à fait différente. Avec un partenaire de musique de chambre, on peut travailler énormément, on peut aller très loin, on peut s'enrichir mutuellement. Et puis j'avais besoin de cette communication musicale parce que je trouvais, j'ai fait pendant 10 ans une carrière vraiment de
concertiste,
de concertiste. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. J'en avais vraiment marre. Je trouvais ça trop solitaire, trop. Autant j'ai du plaisir maintenant à me retrouver seule sur une scène à donner un récital ou à jouer avec orchestre, mais parce qu'à côté de ça, je fais aussi de la musique de chambre, je joue à 2, à 3, à 4, à 5, j'ai ce bonheur-là. Je supporterai plus du tout de passer 10 ans comme les 10 premières années de ma carrière, où j'étais que seule. Et il m'est arrivé plusieurs fois... De m'entendre avec les musiciens de l'orchestre en disant « Ce mec-là, là, celui qui est là debout, on ne le regarde pas, etc. On joue ensemble. »
Oui, vous fondre dans l'orchestre.
Donc à ce moment-là, oui, je joue avec les musiciens, on s'entendait, on se faisait des signes. Le chef d'orchestre, évidemment, est furieux après ça, parce qu'il s'en rend tout de suite compte. Et puis, de toute façon, la musique gagne jamais à ça. La musique ne sort jamais victorieuse de ces batailles-là, ces petites batailles. Mais parfois, on peut pas faire autrement. Mais je dois dire, par contre, que ce genre de problèmes, on les a jamais avec un grand chef, avec, quand je dis grand chef, ça veut pas seulement dire connu, mais ça veut dire grand musicien.
Oui.
Là, il y a jamais de problème de pouvoir non.
Mais c'est sans doute pas pour rien que des grands chefs font aussi de la musique de chambre ou de la musique en petit comité. Je pense à Chung, Myung-Hun Chung, qui fait de la musique de chambre.
Et qui est un formidable pianiste,
Myung-Hun Chung. Ou James Levine, qui accompagne aussi les chanteurs.
Myung-Hun Chung, il y a eu le second prix au concours de Tchaïkovski lorsque j'avais eu un prix c'était quoi, 74.
Ouais.
Il jouait magnifiquement du piano, il joue toujours magnifiquement. Ouais. Mais je veux dire, c'était un pianiste d'une virtuosité et d'une finesse... exceptionnel.
Barenboim, c'est également le cas.
Oui.
Même s'il est
Barenboim
chef.
Est vraiment les deux. On ne sait pas ce qui est en premier, s'il est pianiste ou chef ou pianiste. Enfin, il est avant tout musicien, de toute façon. Et...
Donc, on imagine que des personnalités comme ça, une fois qu'elles sont sur le podium, elles ne peuvent pas être autoritaires.
Mais non. Thank you.
Le largo de la sonate en sol mineur pour violoncelle et piano, opus 65 de Frédéric Chopin, Brigitte Angerer, Henri de Marquette, extrait d'un concert enregistré en l'église Saint-Martin de l'Aigle au début du mois de septembre. Brigitte Angerer, vous enseignez au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y a bien sûr ce qui s'apprend et ce qui ne s'apprend pas. Il y a ce qui s'enseigne et ce qui ne s'enseigne pas. Lorsque l'on devient professeur soi-même, c'est aussi le moment où l'on mesure les cadeaux ou au contraire les dégâts de l'enseignement de ses pairs.
Je crois que le plus grand cadeau qu'on puisse donner à un élève, et ce cadeau mon professeur me l'a donné, c'est de lui apprendre à penser seul, à travailler seul, à se trouver et à trouver sa voie à travers sa propre réflexion. C'est-à-dire que nous, on est là, on leur apporte à la petite cuillère ce qu'on sait, évidemment. Le style de tel compositeur, c'est ça. Attention, la main gauche, attention, le son, travaille comme si. Ok, c'est très bien. Ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ensuite, il est tout seul et où il va aller, comment il va continuer ça, comment il va. Parce que on voit ça, il y a parfois des jeunes qui, pendant un très court laps de temps, on parle d'eux comme de merveilleux pianistes, etc. Une carrière commence et puis pof, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire le moment où il n'y a plus de maître, il n'y a plus personne derrière pour dire comment faire les choses et où ils sont pas capables où ils n'ont pas trouvé leur manière à eux de penser, de travailler, d'aller plus loin, de fouiller.
La liberté dont parlait Neuhaus.
Oui, et de la chercher eux-mêmes. Donc je pense que le plus grand cadeau qu'on puisse faire, à part évidemment d'essayer de leur donner tout ce qu'on connaît, mais c'est surtout de leur apprendre à être autonome et à ensuite pouvoir continuer ce travail qu'on a fait ensemble. Nous, on est là pour les mettre sur un chemin, et eux, c'est eux qui font le chemin, c'est eux qui...
L'enseignement vous aurait manqué si vous n'aviez pas pris ce temps ?
Ah oui. Ah oui. Et je me dis toujours, je n'aimerais pas tout d'un coup arrêter d'enseigner.
Avec votre expérience heureuse en musique de chambre, Brigitte Angerer, j'imagine que vous êtes la première à leur faire prendre conscience de la richesse de tous les répertoires, toutes formations confondues ?
Oui. Je les engage à jouer à deux pianos, en trio, en quatuor, en quintette, parce que tout ça va enrichir leur imaginaire sonore, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Mais moi, spécifiquement, je travaille avec eux, évidemment, les œuvres du répertoire solo. Oui. Mais il arrive qu'ils me demandent de les écouter avec des copains violoncellistes ou violonistes et qui viennent à la classe me jouer quelque chose. Mmh. J'adore ça, je trouve ça formidable.
Ça paraît tout à fait évident qu'à partir du moment où on joue en musique de chambre, on va faire une oreille, une écoute qui ne peut que servir avec orchestre.
Absolument. Et puis qui fait que quand vous jouez du piano, c'est pas un jeu uniforme et que tout à coup vous essayez de rendre la chaleur du violoncelle ou le chant du violon ou la spécificité de la clarinette ou de la flûte ou de tout ça est important. Il faut les entendre, les voir, les entendre respirer. Ça nous apprend aussi à respirer au piano. Ce qui est très difficile, c'est de les instruments avant, par exemple, ils sont bien obligés de respirer d'une manière naturelle, les chanteurs aussi, et pour nous pianistes, la respiration, c'est quelque chose qui manque souvent, parce que c'est pas quelque chose qui est organique. Donc on peut s'inspirer beaucoup de ces instrumentistes et des chanteurs par rapport à ça, par rapport à la respiration naturelle de la phrase, par rapport au fait qu'elle doit aussi s'affaiblir et mourir et pas toujours être dans la tension.
Thank you.
Extrait d'un requiem allemand de Johannes Brahms, la version pour piano à quatre mains, interprétée par le chœur de chambre Accentus de Laurence Equilbet avec Brigitte Angerer et Marie-Joseph Jude, un concert qui avait été donné à Aix-en-Provence en juillet 2001. Alors Brigitte Angerer, le choix de l'instrument, quand cela est possible bien sûr, est capital ô combien. Comment apprivoisez-vous un piano que vous n'avez pas choisi justement lorsque vous arrivez en concert quelque part ?
C'est fascinant, c'est quand même, c'est merveilleux ça d'arriver, puis tout d'un coup on doit exprimer les choses les plus intimes, les plus profondes, les plus calculées aussi par rapport au poids de la touche, par rapport au poids du toucher, enfin bon. Et tout d'un coup on arrive sur un instrument qui a un poids différent, un son différent, une longueur de son différente, la salle est différente, l'acoustique donc différente. On arrive et on a un étranger avec soi, donc on l'apprivoise.
Comment vous faites ?
On commence à jouer, on commence à écouter. Moi, je commence plutôt par des choses lentes. Je vais écouter la longueur de la sonorité. Je travaille, je joue assez longtemps. J'ai besoin de rester assez longtemps dans la salle avant le concert. Au moins 3 heures. Au moins 3 heures. Au bout de 3 heures, je commence à sentir un tout petit peu qu'on commence à se comprendre l'un et l'autre. Et puis après, il y a un laps de temps où je m'en vais, où je laisse le piano. Et quand je reviens, c'est comme si je le connaissais. Ouais. Mais parfois, il y a des moments où on n'arrive pas à trouver une sympathie naturelle, disons, avec l'instrument. Ça arrive, ça. Mais on est quand même obligé de donner son concert et de donner le mieux qu'on puisse donner, mais avec un instrument un peu étranger, un peu. Je peux ne pas aimer le toucher du clavier, je peux aussi avoir ça arrive aussi des coups de foudre avec des instruments.
Vous avez ici chez vous un quart de queue.
C'était Noël, oui, que mes parents m'ont acheté quand je préparais le concours long.
Et sur lequel vous travaillez toujours.
Oui.
Depuis toutes ces années.
Ah oui, que j'adore. Et même si je me dis que il est petit, il a peut-être, je me suis dit 2-3 fois, bon, il est vieux, il faudrait que je change, que j'en achète un autre. Et chaque fois au dernier moment, je craque, je peux pas m'imaginer sans ce piano. Non, c'est vraiment, c'est comme un enfant, c'est comme le prolongement de mes mains, c'est vraiment ma, oui, c'est mon ami. Mais vous parlez d'instruments et je pense à une scène. Mon professeur est mort en 80. Et il y a 3 ans, je suis retourné en Russie. Et je suis retourné dans sa maison et il y avait son instrument. Et j'ai voulu rester toute seule dans la salle, dans la pièce où il y avait le piano. Et j'ai travaillé 2 heures sur ce piano. Enfin, j'ai joué. Et pour vous dire à quel point chaque instrument est spécifique, c'est exactement comme si mon professeur était là. C'est-à-dire, je retrouvais exactement la voix du piano, le toucher, le parfum, c'était comme un moment suspendu. Enfin, j'étais revenu 20 ans en arrière. Alors, je le caressais, c'était vraiment quelque chose de physique, de...
Le piano n'est plus l'instrument de torture qu'il était à une certaine époque pour
non.
vous.
C'est pas du tout. Non, j'ai un vrai bonheur, un vrai plaisir. Je sais que c'est vraiment la signification profonde de ma vie. Tout tourne autour de ça, oui.
Thank you.
Brigitte Angerer et Oleg Meisenberg interprètent de la valse de Rachmaninov, extraite des 6 pièces à 4 mains de l'opus 11.
La valse pour piano à 6 mains de Rachmaninov avec Oleg Meisenberg, Elena Bashkirova et Brigitte Angerer refermait la mémoire retrouvée de Brigitte Angerer que Gaël Le Gallic avait enregistrée en 2003. Je vous propose de rester en compagnie de Brigitte Angerer à l'écoute d'un récital qu'elle avait donné au Théâtre Récamier en mars 1977. Le programme débutait par la sonate en sol mineur opus 22 de Robert Schumann.
Thank you.
La sonate en sol mineur opus 22 de Robert Schumann. Le récital de Brigitte Ingerer se poursuivait avec deux œuvres de Frédéric Chopin, la quatrième ballade opus 52 et le nocturne en fa dièse mineur opus 15.
Thank you.
La ballade numéro 4, opus 52 de Frédéric Chopin, concluait le récital que donnait Brigitte Ungerer au Théâtre Récamier en mars 1977. Toutes les archives que vous avez pu écouter aujourd'hui sont disponibles au podcast ou à la réécoute sur le site francemusique.fr à la page des Trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.